Nous avons vu ce matin se voir comme autre. Nous avons exploré ceci. Nous avons vu qu'il y avait deux aspects dans cette manière de se voir comme autre. Soit se voir l'équivalent d'un autre, soit se voir en tant qu'autre. Et c'est surtout cette deuxième lecture que nous avons prise, se voir en tant qu'autre. Nous avons exploré dans nos méditations ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin. Et le deuxième aspect, dans l'échange de soi et d'autrui, tel que Shantideva l'évoquait, c'est de voir autrui comme soi-même. Alors, autrui comme soi-même, soit on pourrait le voir comme égal à soi-même, aussi ce que Shantideva explore dans la première partie de la moitié de son huitième chapitre, et puis ensuite il va passer l'exploration de voir l'autre en tant que soi, donc pas simplement similaire, mais en tant que soi. Et c'est là que c'est évidemment un peu plus subtil, ce changement qui fait qu'on va pouvoir non pas seulement voir la similarité de soi et d'autrui, mais essayer de reconnaître en l'autre soi. C'est-à-dire on va placer cette étiquette de moi-je dans l'autre. Donc c'est quelque chose d'évidemment assez inhabituel et qui va demander un peu d'exploration et un peu de doigté. Donc cette manière dans l'échange de soi et d'autrui, dans la pratique d'échange de soi et d'autrui, de commencer directement par cette deuxième lecture qui est en tant que soi, non pas simplement similaire. Donc on suit toujours là les indications de Serlingpa, donc de ce maître qui venait de Sumatra. Il dit qu'il est judicieux de passer tout de suite, on peut passer tout de suite à ceci. Mais on peut bien comprendre l'intérêt, j'espère que vous l'avez vu un petit peu, à se voir comme un autre ou comme autre, parce qu'on se rend compte que ça allège pas mal cette importance qu'on se donne, cette manière d'être le centre du monde qui est extrêmement lourd à porter. Donc ça, je crois que c'est pas difficile à comprendre, l'a exploré un petit peu, mais par contre, pourquoi, à quoi ça sert d'essayer de voir l'autre en tant que moi? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on n'amène pas simplement plus de confusion? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça apporte, le fait de voir l'autre comme moi? On peut l'expliquer de diverses manières. Je reviens à ce que j'ai évoqué dans ces neurones miroirs qui fait qu'il y a ceci pour expliquer une sorte d'empathie spontanée qui viendrait de notre propre constitution. Nous sommes constitués de telle manière que notre organisme réagit dans un effet de miroir par rapport à ce qui se passe dans autrui, en précisant aussi que de vouloir placer simplement ceci au niveau des neurones, c'est un peu mécanique et qu'il faudrait quand même inclure aussi dans ceci le fait de comprendre le sens de ce qui se passe pour l'autre, comprendre le sens d'un visage sous la tristesse, sous l'inquiétude et autres. Donc on pourrait dire que les neurones miroirs pourraient simplement me permettre de faire le même visage que l'autre, mais encore faut-il que je comprenne que ce que la personne éprouve, son visage, ce qu'il manifeste, c'est de la tristesse, de l'inquiétude ou de l'irritation. Donc, neurones miroirs, oui, mais avec cette capacité aussi de comprendre. Mais ce qui est important ici, c'est que on essaie de décrire une sorte de mouvement spontané qui ferait que, naturellement, on aurait cette capacité à être en phase avec ce qui se passe pour l'autre. Naturellement, on aurait cette empathie pour l'autre. Donc si on l'a naturellement, pourquoi est-ce qu'il faudrait se casser la tête à essayer de placer le moi dans l'autre, puisque c'est un mouvement naturel? Donc qu'est-ce que ça rajoute, à quoi ça sert? Ce qu'on remarque, c'est que dans ces exercices spirituels que j'ai évoqués, donc ce sont des petits textes, une collection de petits textes, Eh bien, il y a des recommandations pour avoir un sentiment d'empathie, on verra, de bienveillance, de compassion pour les autres. Alors on donne certaines astuces, voilà, certains me disent qu'il faut reconnaître dans les autres sa propre mère, comme toutes les autres personnes étaient sa propre mère. D'autres, je prends les textes, ils disent son oncle, sa tante, un ami. Donc, on a différentes manières, mais on peut se demander pourquoi faut-il rajouter quelque chose? Pourquoi est-ce que le simple fait de rencontrer l'autre personne ne suffit pas? Qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'on imagine une autre personne pour créer ce lien, pour qu'on soit dans l'empathie avec l'autre? Pourquoi faut-il rajouter quelque chose? Donc ici, on a vu sa mère, son oncle, sa tante, un ami, enfin, quelle que soit la personne. Et puis, alors, Shantideva nous dit, comme soi-même, il va bien plus loin, mais quand même, il donne une astuce. Pour qu'il y ait cette empathie, il faut qu'il y ait quelque chose que, dans le fond, on ne laisse pas l'autre à cette simple vision, mais que on ait une vision particulière. Donc ici, qui sera la vision comme soi-même. Simone de Weil fait une remarque en évoquant un chant populaire espagnol, dit-elle, je ne connais pas les chants populaires espagnols, mais, qui dit qu'il n'y a rien de tel que la pauvreté pour devenir invisible. Rien de tel que la pauvreté pour devenir invisible. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que une personne dans les difficultés, on imagine la pauvreté, eh bien, les gens ne la voient plus. Donc on est dans une remarque ici qui va à l'encontre de cette empathie naturelle. Qu'est-ce qu'on remarque dans le fond? Peut prendre encore d'autres citations. On fait bloc. On s'oppose à cette empathie naturelle, on lui résiste, on n'a pas envie. Donc, cette personne qui est pauvre, s'il n'y a rien de tel que la pauvreté pour être invisible, ça veut dire que les gens ne la voient pas, cette personne. Donc, ils ne veulent pas être touchés par cette empathie. Donc, il y a aussi un mouvement que nous avons qui fait que nous bloquons cette empathie. Nous n'avons pas envie d'être sollicités dans ce mouvement d'empathie, donc nous le bloquons. En voyant pas la personne, on aura beaucoup d'exemples. Si on prend les plus grands philosophes, étonnamment, ils ont des mots très très durs. Alors ils parlent plutôt de pitié, mais ils font pas toutes ces nuances entre pitié, compassion, etc. Il y a une sorte de mépris pour la pitié, parce que pour eux, c'est faire preuve de faiblesse, de sentimentalité, et puis c'est pas égalitaire. Alors, que ce soit Platon, Sénèque, Kant, Spinoza, Nietzsche, tous ces gens-là, voilà, ça fait partie quand même de l'élite des philosophes. Ils ont tous ce regard assez négatif par rapport à ce qu'ils appellent la pitié. Pour apprendre quelqu'un de beaucoup plus positif, on trouvera chez Rousseau des très belles pages où il parle de ceci aussi avec une grande sensibilité. Mais alors, on peut imaginer que si ces grands philosophes, voilà, dénigrent un peu ce qu'ils appellent pitié, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie d'être touchés. Voilà, Sénèque qui parle de faiblesse, c'est un signe de faiblesse que d'être affecté par la souffrance de l'autre. Donc peut-être parce qu'ils se protègent et qu'ils ne veulent pas être touchés. Mais peut-être que ça révèle aussi quelque chose, qui serait un danger d'une compassion, d'une empathie mal comprise. Donc, pour nous servir aussi de garde-fou en nous disant, ben voilà, qu'est-ce qu'il mentionne dans le fond? Je crois que quand il parle de pitié, ce n'est pas la compassion telle que nous la comprenons, dont il parle, mais c'est aussi la compassion telle qu'on pourrait quelquefois la confondre ou être confus à son propos dont il parle. Donc ça peut nous aider. Donc pour bloquer cette empathie, on utilise certaines stratégies. Et vous allez voir, c'est d'une manière extrêmement vaste, malheureusement extrêmement large, qu'on utilise cette stratégie en chosifiant Alors, pas la voir invisible, comme disait ce chant espagnol, c'est une manière très marquante, mais on utilise des stratégies de chosification pour ne plus avoir affaire à une personne. Parce que quand on a affaire à des choses, il n'y a pas d'empathie. On n'a pas d'empathie pour la chaise, la pauvre, elle est toute seule. En général, pas le cas. Donc, on bloque ceci afin de ne pas être touché. Alors, on le bloque, je dis, par les chosifications, et c'est terrible. On met les gens dans des catégories. On peut voir le rapport avec les sans-abri, les mendiants. Alors, il y a évidemment tous les slogans qui peuvent surgir, qui sont mis dans les catégories, et c'est des chosifications. On peut dire un drogué, alcoolique, un bon à rien. Et on n'a plus affaire à une personne, on a affaire à un bon à rien. C'est plus une personne, c'est une catégorie. Un alcoolique, c'est plus une personne, c'est un alcoolique. Un drogué. Donc ces catégories font qu'on ne rencontre plus une personne, on rencontre une catégorie. Mais évidemment, ceci a été étudié, utilisé de manière dramatique dans les génocides. Qu'est-ce que fait le génocide? Il ramène les autres à des catégories. Alors, on pourrait dire ici juif, musulman ou communiste, mais en général, on rajoutait des choses. Pas simplement juif, on rabaissait avec certains arguments, musulmans, communistes et autres. Donc, en ramenant, rabaissant l'autre ou les autres dans ces catégories-là, on a intellectuel, par exemple, dans toute la révolution culturelle en Chine, on a évidemment massacré mais des millions de personnes. Le slogan qui a été utilisé, c'était intellectuel. De la même chose chez les Khmers rouges. Ça c'était la pire des insultes intellectuelles. C'était qu'une insulte, ça va, mais ça risquait bien de vous conduire à la mort. Donc, ce qu'on remarque, on utilise des catégorisations, évidemment comprises négativement, afin d'éviter l'empathie. On est dans quelque chose d'intéressant, c'est pas qu'on a besoin de construire une empathie parce qu'on ne sait pas tellement où aller la chercher, c'est que dans le fond, on s'en protège, et quand on veut vraiment nuire aux autres, alors les systèmes nazis, le système des Chinois communistes sous Mao Tse-Tung, ou bien de Khmer Rouge ou Pol Pot, ça continue, hein. Pas citer tous les conflits, les génocides, on a toujours affaire à ce même mouvement. De ne pas rencontrer l'autre. Il y a plein de récits, peut-être pas mal de récits dans les camps de concentration. On se rend compte que ça c'était mis en jeu, et que c'était le danger, c'était que tout d'un coup cette chosification ne joue plus. Grand danger, il fallait surtout pas. Primo Levi, dans un livre qui s'appelle Si c'est un homme, que j'ai pas lu, j'ai que une deux citations, il décrit sa rencontre avec un officier allemand dans le bureau du camp de concentration. Donc, voilà, pour une raison ou une autre, il doit aller dans ce bureau, qu'il décrit, je pense, en détail. Et il dit, quand il est fini d'écrire, je ne sais pas quoi, il leva sur moi ses yeux et me regarda. Son regard ne fut pas celui d'un homme tourné vers un autre homme. Ce fut un regard échangé à travers la vitre d'un aquarium de deux êtres appartenant à des mondes différents. Il est là. C'est pas un homme qui regarde un autre homme, il est là, lui il est regardé, il se rend compte qu'il y a un abîme qui les sépare. C'est évident que dans ces situations-là, il fallait à tout prix que l'empathie ne joue pas, parce qu'on ne peut pas commencer à exterminer des gens pour lesquels on a de l'empathie, ça devient très compliqué. Et Primo Levi, après, a essayé de retrouver cet officier allemand, non pas pour lui dire ses vérités, non, il voulait comprendre. Il dit, comment est-ce que c'est possible? Je ne crois pas qu'il l'ait retrouvé. Et voyez cette manière de. Je crois qu'on pourrait, dans bien des situations, reconnaître ce regard déshumanisant, et qui fait qu'il n'y a pas de haine possible, qu'il n'y a pas de violence possible s'il n'y a pas tout d'abord le fait de bloquer cette empathie naturelle. Dans la rue, on le reconnaît, on le voit. Mettez-vous près des mendiants, moi, je trouve que c'est toujours un théâtre d'exploration tellement extraordinaire. Et on voit comment les gens se comportent. La plupart, ils les voient pas, c'est vrai. On les voit pas. Alors, enfin, prétend ne pas les voir. C'est le moment juste où on a quelque chose à dire à son voisin, à sa voisine, alors qu'on passe juste devant ces gens qui font la manche, quoi, pour une pièce. C'est le moment où j'allais regarder de l'autre côté. Et on évite. Mais quelquefois, c'est plus agressif. Des gens, voilà, tu ferais mieux de travailler. En fait, voilà. Cette manière. Pourquoi cette agressivité, dans le fond? Pourquoi? La personne, bon, elle ne demande rien, enfin, elle demande de manière assez passive. Pourquoi d'un coup cette réaction de la part des gens? Pas tous, Dieu merci, mais on peut l'observer. Pourquoi? Pour ne pas être touché. C'est une manière de se fermer. On accuse l'autre. On se protège d'un sentiment d'humanité réciproque pour ne pas être touché. Et les enfants, en général, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas cet évitement-là. Pour eux, c'est juste une autre personne. Je me souviens à Milan, on buvait un café avec Patricia, et il y avait en face un jeune homme qui jouait du violon. C'était très très beau d'ailleurs ce qu'il jouait, son violon. Mais personne n'entendait ou voyait rien du tout, les gens passaient. Puis évidemment, un petit enfant, il tire son papa par la main, puis il va se mettre droit devant le violoniste pour regarder, parce que il trouve que c'est assez intéressant quand même, ce jeune homme qui joue d'un instrument. Alors, en général, les parents sont obligés de donner une piécette. Parce que là, c'est plus difficile d'éviter, puis il faut quand même donner une bonne éducation aux enfants. Donc il y a à la fois une sorte d'empathie où on sent cette humanité partagée de manière manifeste, et puis d'une certaine manière on n'a pas envie d'être dérangé par ce fait que on a cette humanité partagée, donc on bloque ceci de diverses manières. Je prends un autre exemple d'un psychiatre qui avait passé quelques semaines dans les rues à Paris avec les clochards pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il a travaillé d'ailleurs beaucoup dans ensuite des lieux où on s'occupait des sans-abri, les soignait, etc. Qui est évidemment des situations immensément difficiles parce que les gens sont dans des situations de douleur, souffrance intense. Alors il est dans le métro, il a décrit sa pratique de la mendicité dans le métro. Il dit, quelle que soit la technique adoptée, il faut affronter les insultes et les moues méprisantes. Devant les regards, les insultes et les moues méprisantes, devant les regards qui se détournent, il faut, pour continuer d'exister, lutter contre le sentiment insidieux d'être devenu invisible, comme le sont les fantômes. C'est lutter pour continuer d'exister devant les regards qui ne vous voit pas, comme si vous étiez des fantômes. Oui, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Non seulement on ne donne rien, mais en plus on enlève l'existence des autres. Ils n'existent pas, ils ne reconnaissent même pas. Alors, je vous cite encore quelques phrases de Simone Weil parce que pour moi elle a vraiment explorer ceci avec beaucoup de sensibilité. Parce qu'elle dit, alors évidemment, il peut y avoir de notre part, de manière générale, cette manière d'éviter la rencontre de l'autre. Mais elle dit que de la part des sans-abri, des clochards, il peut aussi y avoir cet évitement. Pourquoi? Parce que la rencontre les met aussi devant leur situation difficile. Il y a quelque chose aussi, à certains moments, d'humiliant lorsque tout d'un coup ils sont en face de quelqu'un qui les reconnaît, non pas qui les reconnaît comme mendiants. Elle dit, un autre effet du malheur est de rendre l'âme sa complice, peu à peu en y injectant un poison d'inertie. dans le malheur, quand il atteint un certain niveau, c'est comme s'il y a une inertie, la personne a de la peine à s'en sortir parce que finalement, elle s'identifie un petit peu à cette catégorie dans laquelle elle est mise. Parce que c'est difficile de continuer à exister. Je veux continuer à citer Simone Weil. Le malheur est avant tout anonyme. Il prive ce qu'il prend de leur personnalité en faisant des choses. Il est indifférent, et c'est le froid de cette indifférence, un froid métallique qui glace jusqu'au fond même de l'âme de tous ceux qu'il touche. Ils ne croiront jamais plus qu'ils sont quelqu'un. Et la difficulté, c'est que les personnes dans les graves difficultés, ici on peut imaginer justement des sans-abri qui souvent sont aussi des alcooliques et autres, parce que c'est des situations difficiles. Ils sont complices de leur malheur à un certain niveau, non pas parce qu'ils seraient masochistes, mais parce que c'est leur manière de peut-être de s'en tirer, et que de vouloir les aider comme s'ils étaient capables de revenir immédiatement à cette capacité d'humanité complète, c'est les mettre devant une immense difficulté. Dans son livre qui s'appelle Les Naufragés, c'est un livre magnifique, il décrit un sans-abri qui servait finalement, on l'avait mis à la cafétéria, je pense, où on nourrissait un peu les sans-abri, on l'avait mis là à la cafétéria parce qu'il était, avant il était garçon de café, et puis. Voilà, donc ils venaient les midis pour aider, et puis ils se sont rendus compte qu'ils se débrouillaient bien, évidemment. Alors lentement, un assistant social s'est dit, ben, ça serait bien si on pouvait l'inscrire dans un cours de réintégration. On va le mettre, alors lui on a parlé, et puis il n'était pas très chaud, etc. Mais cet assistant social s'est dit, ça serait quand même bien, il pourrait être réintégré, on met un programme de formation, etc. Et puis le jour avant... qu'ils doivent se rendre dans ce centre de formation, etc. Et il avait disparu. Il avait disparu. C'était trop pour lui. On lui demandait une trop grande responsabilité, une trop grande autonomie qu'il n'avait pas. C'est une histoire dramatique parce que quelques mois plus tard, ils l'ont découvert mort devant cette cafétéria par une nuit extrêmement froide. C'est comme s'il était mal, il avait voulu revenir. Mais il n'avait pas pu assumer cette responsabilité. On peut pas, dans ces cas-là, immédiatement vouloir aider une personne en pensant qu'elle-même, elle va aider. Ce que Simone Weil dit, dans toute l'attente de Dieu, c'est que dans le fond, d'abord, il faut leur redonner petit à petit leur humanité. On ne peut pas leur demander des responsabilités. Il faut d'abord leur rendre leur humanité et ensuite quelque chose peut se passer. Mais ça veut dire quoi leur humanité? On n'en a pas dans notre sacoche, dans notre sac à dos pour distribuer. Voilà, j'en ai un petit peu, il m'en reste. Ben c'est déjà de pas avoir un regard qui les rend invisibles. C'est déjà de les reconnaître et de dire bonjour. C'est une chose immense que d'avoir affaire à des mendiants, à des gens qui sont souvent dans une mauvaise position. Alors quelquefois, ben, ils ne sont pas vraiment bons. Il y a des mendiants, c'est vrai que c'est assez difficile, etc. Ben, évidemment, s'ils étaient magnifiques et tout, imaginez les dons qu'ils auraient, quoi. Ils compteraient sur les dons. C'est bien parce qu'ils sont dans des situations difficiles que c'est difficile pour eux. Donc d'arriver à établir un contact, et c'est pas difficile parce que dans le fond il cherche ceci, à moins qu'il soit sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Quelquefois c'est un petit peu trop loin à ce moment-là, alors ils sont un petit peu dans le vague, mais autrement c'est extrêmement surprenant dès qu'on établit le contact par un regard ou bonjour, etc. Combien ils sont là. Plus que toute autre personne. Parce que la seule chose, dans le fond, qui les intéresse d'une certaine manière et qui les nourrit, c'est d'être reconnu comme étant là. me souviens à New York quand j'étais dernièrement, là, il y avait un jeune homme qui mendiait. Alors je suis allé lui donner quelque chose. Il dit, monsieur, monsieur. Il a sorti un petit sac en papier et il m'a dit, voilà pour vous, c'était un biscuit au chocolat, etc. Il est excellent. Moi, je m'étais dit, je ne vais plus manger de sucre, mais bon, je pouvais pas me faire ça. Je me suis dit quand même, il donnait tellement gentiment ce biscuit au chocolat que je l'ai mangé avec grand plaisir aussi. Mais voilà, c'est des échanges comme ceci qui sont extraordinaires. Je me souviens une autre fois, toujours à New York, mais c'est pas le seul endroit où il y a des mendiants. Enfin, là. Alors je passe devant un mendiant qui avait une guitare électrique, il me dit, ouais, monsieur, pour acheter des batteries, parce que c'est une guitare électrique, il faut des batteries pour que ça joue. Il me dit, il faut soutenir les artistes quand même. Alors voilà, je donnais quelques dollars. Et puis après, j'ai repassé, alors il jouait, il m'a fait un grand clin d'œil. Ouais, ça marche. Hein. Donc, il y a toujours un échange qui est enrichissant. Dans la mesure où on se rend compte que ce qui est en jeu, c'est cette humanité partagée. Donc, pourquoi voir autrui comme en soi, c'est parce que c'est une manière très forte de reconnaissance, et on verra qu'il y a, avec toute cette reconnaissance de l'autre comme soi-même, spontanément des mouvements de générosité ou d'être considéré, ou de compassion quand la personne est dans la douleur. Alors, j'écoutais un cours d'un psychanalyste de Lyon qui s'appelle René Roussillon. Remarquable, qui est un très bon pédagogue, et il parlait justement de ces neurones miroirs qui faisaient écho à une autre notion qu'il avait en psychanalyse, qui est ce qu'il appelle l'identification narcissique, cette capacité à s'identifier à l'autre. Et il a fait une remarque, alors ça m'a vraiment surpris. Il m'a dit, bah, voilà, il m'a dit, imaginez que vous êtes dans la rue et puis vous voyez un mendiant. Vous lui dites bonjour, etc. Donc vous le reconnaissez, vous êtes dans cette reconnaissance. Il dit, essayez ensuite de monter dans votre petite voiture sans rien lui donner. Vous verrez comme c'est difficile. Pour dire, ben, dès qu'on a ce lien, tout d'un coup, les choses changent. C'est plus une chose, donc on est immensément concerné. Comment pourrait-on prendre la responsabilité de laisser quelqu'un qui est dans un besoin vital au bord de la route, au bord de la rue, c'est une immense responsabilité. Donc on ne l'apprend pas en niant le fait qu'il y ait une personne qui l'a dans le besoin. Donc cette reconnaissance va toujours dans les deux sens. C'est une rencontre de deux êtres humains, c'est pas une rencontre de moi généreux, etc., qui rencontre un pauvre bougre. Voilà, je le rencontre, je suis content, j'ai rencontré quelqu'un. Non, ça va toujours dans les deux sens. Et c'est vraiment un acte d'humanité dans cette rencontre. Et il y a quelque chose dans cette rencontre d'extrêmement touchant, parce qu'il y a une vulnérabilité. La personne qui m'en dit, elle est totalement vulnérable. Et c'est peut-être cette vulnérabilité qu'on a de la peine à rencontrer. Mais ce n'est pas la même rencontre si on va acheter quelque chose dans un magasin, on rencontre le vendeur, la vendeuse, ce n'est pas la même rencontre. Ça n'a rien à voir. Il y a un contrat, on doit payer ce qu'on prend, etc. Il n'y a pas la même vulnérabilité, il y a des rôles très bien définis. On peut rencontrer des gens sympathiques, mais ce n'est pas la rencontre qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est démuni. Donc, Shantideva va parler du suprême mystère que cet échange de soi et d'autrui. Oui, ça ouvre la porte naturellement à toute cette compassion, à cette générosité qui est toujours éprouvée comme liberté et non pas comme contrainte. Si on est face à des mendiants et qu'on observe un petit peu les en face ou derrière à une certaine distance et qu'on observe ce qui se passe, on verra bien que les personnes qui évitent, que les personnes qui voilà, regardent de manière agressive ou font des remarques désagréables, on verra bien que c'est des personnes qui ne sont pas libres. C'est vraiment un signe d'être enfermé dans un mode de pensée. Et puis les personnes qui donnent, en général, dans un acte de générosité simple, on se rend compte que là, il y a quelque chose d'une plus grande liberté. Dans la mesure où on ne remplit pas un contrat. Ce que je veux dire, c'est si c'est une obligation, je dois donner, il faut donner, etc. Là, on enlève quelque chose. Non, on le fait totalement librement, non pas parce que Dieu va nous le rendre au centuple. Ça, c'est dommage, on perd quelque chose. On n'a pas besoin du centuple. Dans le rapport humain, il y a quelque chose de beaucoup plus riche que tout le centuple dont on pourrait nous gratifier. Donc, on va par la pratique explorer comment voir l'autre comme soi-même, comme si c'était soi. Et là, il faudra prendre, là, il faudra prendre une personne spécifique. C'est pas tous les autres, parce qu'ils savaient beaucoup de moi, et puis c'est compliqué si tout d'un coup on devait imaginer qu'il y a tant de moi. On va voir que c'est possible aussi, mais d'abord en général on prend une personne. Et puis on va essayer de voir comment c'est possible de voir cette personne comme moi. Donc une personne spécifique qui a une apparence particulière, on prendra pas. Des amis trop proches, etc., où il y a déjà tellement d'enjeux affectifs, ça va compliquer, mais assez rapidement on pourra passer à ces gens-là parce que c'est là que ça va nous enrichir.